Deutsche Welle, Économie et Développement.
Je vous propose dans ce numéro de vous faire voyager. Tout d'abord, étape au Congo, qui renforce ses relations avec la Chine, notamment en matière de monnaie. Puis direction le Brésil, qui accueille les Jeux Olympiques, mais dont la situation financière est dans une mauvaise passe. Embarquement immédiat pour le magazine Économie et Développement, Claire-Marie Kostmann au pilotage. Bienvenue à toutes et à tous. Le Congo et la Chine ont signé un accord de convertibilité du yuan, la monnaie chinoise, avec le franc CFA. Depuis, les hommes d'affaires attendent l'application de cet accord qui pourrait leur être bénéfique. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant au Congo.
C'est tambour battant et depuis la Chine, où séjournait le président Denis Sassou Nguesso, que cet accord de convertibilité du yuan a été annoncé. C'est-à-dire, la monnaie chinoise et le franc CFA utilisés à Brazzaville n'auront plus besoin de s'adosser au dollar ou à l'euro pendant leur change. Une nouvelle saluée par de nombreux Congolais qui commercent avec la Chine, à l'instar de Christophe.
Partir de Brazzaville avec ses francs CFA et les échanger directement en Chine, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Nous payons un peu plus parce que rien ne s'est fait pour rien. Quand vous voulez changer les francs CFA en dollars ou en euros avant d'aller en Chine, par exemple, 1 million de francs CFA pour envoyer de l'argent en Chine, vous coûte 75 000 francs. Ça vous coûte 70 000 francs selon les agences, CFA, par million. Et si vous avez 5-10 millions à envoyer, vous comprendrez que vous avez, si c'est 10 millions, 700 000 francs à payer, rien que pour le change. Ça constitue quand même un véritable frein. Mais si il y a franchement cette interchangeabilité entre le yuan et le franc CFA, il faut reconnaître que c'est tout à l'avantage des commerçants congolais que nous sommes.
Serge Ikiemi, économiste mais surtout patron d'une agence de transfert de fonds basée à Brazzaville, les Congolais gagneront beaucoup si cet accord venait à se réaliser. Mais Serge Ikiemi attend d'abord voir comment des accords plus spécifiques et techniques permettront cette convertibilité du CFA avec le yuan.
Aujourd'hui, le plus lourd des lots transferts, c'est la Chine, c'est Dubaï. In fine, dans le pipe de ces accords, il va avoir probablement une possibilité des Congolais d'acheter des yuan au niveau de la Bessa Bank ici au Congo. C'est-à-dire un Congolais arrive au guichet, il peut s'acheter des yuan à l'instar de l'achat des dollars ou des euros au niveau du guichet de la Bessa Bank. Autre chose qui peut arriver dans les scénarios, c'est que le Congolais peut voyager en partance de Brazzaville pour Pékin en Chine ou pour la Chine. Arrivé là-bas, il y aura un comptoir dans des banques où il peut arriver avec des CFA, des fonds CFA, et les céder contre des yuan de manière officielle au lieu que ça se passe dans un marché noir. Ça veut dire que si l'argent quitte la Chine pour atterrir directement au Congo, le Congo ne perd plus les 50% qui devraient être égarés au niveau du compte des opérations, au niveau de la France. Et en plus, en matière, en termes de temps, jadis en matière de transfert, il fallait attendre tout au moins 48 heures ou plus pour que l'argent atterrisse dans une banque congolaise quand ça quitte l'étranger. Et dorénavant, l'argent qui est viré depuis la Chine tombe au Congo via la Bessa Bank en temps réel. Comme à Western Union, je crois que c'est une révolution. Maintenant, les cours officiaux de cette devise, bon, ça reste à fixer par la commission mixte des experts. Voilà pourquoi nous sommes dans l'attente.
Les observateurs et les universitaires, eux, sont réservés. D'une simple question économique peuvent découler de sérieuses complications politiques, notamment avec la France, dont le Trésor public loge un compte franc CFA des pays africains. Isidore Moufra est enseignant d'économie à l'université Marie Ngouabi de Brazzaville.
Attention, il y a des accords qui existent depuis longtemps entre la zone CFA et la France particulièrement. Et ces intérêts-là sont actuellement, sans même cet accord, ces intérêts sont menacés. Hein? La France ne verra jamais d'un bon œil que La Chine vient avec une monnaie ici. Si on fait comme ça, la France va ressurgir.
Arsène Séverin à Brazzaville pour la Deutsche Welle.
Num dia de chuva ele disse, tem que ter, jogar com a sorte, coragem, com um braço forte, oh, jogar com a sorte. Consigo conquistar com
La chanteuse Flavia Coelho nous entraîne au Brésil où le sport est à l'honneur en ce moment avec les Jeux Olympiques. Mais l'économie du pays, elle, n'est pas très en forme. Récession, PIB en baisse de 3,8% l'an dernier. Mauvaise perspective selon le Fonds monétaire international. Les nuages s'amoncellent sur le ciel de ce membre des BRICS, comme l'Afrique du Sud. Le Brésil est tout de même considéré comme le premier producteur mondial de café, de canne à sucre et d'orange, mais aussi l'un des premiers pour le soja, le bétail ou encore le fer. Alors le géographe Hervé Théry, qui connaît le pays depuis plus de 40 ans, se montre lui plutôt rassurant quant à la situation du pays. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l'université de Sao Paulo.
Les Brésiliens sont un tout petit peu moins optimistes que d'habitude, parce qu'ils sont, par éducation, par fonctionnement, enfin par toutes sortes de raisons, c'est toujours l'optimiste qui domine. En ce moment, il est un peu estompé. Mais je pense qu'il y a eu un engouement excessif pour le Brésil dans les années passées, en Europe et ailleurs, et que maintenant, du coup, l'opinion s'est retournée et il y a un pessimisme nettement excessif. Mais ici, au jour le jour, les gens continuent à penser que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
Les prévisions de croissance sont assez mauvaises. On parle de la dette aussi qui plombe les finances. Quelles sont les pistes actuellement pour le Brésil pour essayer de redresser la barre ?
Tous les ans, je viens au Brésil où j'y vis maintenant et j'ai jamais une seule fois entendu dire cette année tout va bien, la situation est parfaite. C'est un pays qui vit dans la crise parce que c'est un pays encore en croissance et en constitution. Et donc, il y a toujours quelque chose qui ne va pas parce que c'est comme ça qu'un pays grandit. Si on revient sur le passé, je dis parfois que c'est à peu près la situation des États-Unis vers 1890. Vous voyez, donc ça donne encore, avec tout ce qu'il y a, avec de violence, de corruption, etc. Donc c'est un pays qui est encore en train de grandir avec des coups de barre brutaux, des montées et des descentes. Il y a quelques années, le Brésil avait grandi à 7,5% dans l'année d'après 3%, puis maintenant moins 2%. Il y a encore des hauts et des bas très, très forts.
Le Brésil a beaucoup de ressources naturelles. Je pense notamment au fer, à l'aluminium, à la houille. C'est aussi un grand exportateur agricole. C'est aussi une de ses faiblesses. Parce qu'il y a la baisse des cours des matières premières.
Ce serait un gros problème si, comme certains pays, ils dépendaient d'une seule ressource. Mais en réalité, il y en a qui montent et il y en a qui descendent. Le soja a un peu baissé, c'est vrai, mais comme la monnaie brésilienne s'est dévaluée, ça ne fait pas grande différence sur les rentrées des exportateurs. Et surtout, il y a une très grande diversité de choses, de produits exportés, qui fait que souvent, ça s'atténue grosso modo. Et puis il faut rappeler que c'est un des pays où les exportations comptent le moins dans le produit intérieur brut. Alors, généralement, le FMI fait les gros yeux, la Banque mondiale ne sait pas bien, bon, tout ça. Mais d'un point de vue moins économique, c'est plutôt une bonne chose que ce soit à plus de 80% le marché intérieur qui soit la base de la croissance.
Et est-ce que le marché intérieur est uniforme selon la carte du Brésil ? C'est vrai qu'on est loin, on ne connaît pas forcément la géographie brésilienne. Est-ce qu'il y a toujours j'imagine la côte est très développée, mais comment ça se passe plutôt dans l'arrière-pays ?
Dans les grands pays, c'est sûrement le plus inégal au monde, de très très loin. Région par région, comme vous le disiez, le littoral par rapport à l'intérieur, le nord-est pauvre par rapport au sud-sud-est riche, à l'intérieur des régions, à l'intérieur des villes, quartier par quartier, il y a des abîmes de différence entre des gens très très riches, qui sont les riches brésiliens sont souvent bien plus riches que les riches européens, et des gens très très pauvres. J'avais un chapitre d'un livre que j'avais appelé, il y avait un économiste brésilien qui disait que le Brésil devrait être rebaptisé Belle India, parce que c'est un mélange de Belgique et d'Inde. J'avais dit c'est plutôt la Suisse, le Pakistan et le Far West, parce qu'il y a aussi toute une série de régions qui sont encore en voie de conquête, avec pour le pire et pour le meilleur, qui sont encore au stade où on est de la conquête pionnière.
Et ça, notamment dans le domaine des minerais ?
des minerais, mais surtout des terres. Hein. C'est surtout en Amazonie et dans le centre-ouest, où il y a tous les ans des terres qui sont incorporées et défrichées, ce qui souvent inquiète beaucoup à l'extérieur. Et pour les minerais, vous avez raison, on peut très bien demain découvrir encore beaucoup, beaucoup de minerais. Là, vous faisiez allusion aux minerais de fer, l'énorme gisement de la Serra de Carajás, qui fait pas moins de 17 milliards de tonnes de fer, a été découvert dans les années 60. Et il se peut très bien qu'un peu plus loin, il y ait encore d'autres gisements comparables.
C'est ce que vous disiez, ce côté Far West, c'est un pays qui est encore en train de conquérir son territoire, de conquérir ses richesses.
Oui, tout à fait. C'est un des derniers pays au monde qui a encore cette possibilité, avec d'énormes régions plus grandes que bien des pays européens, qui sont encore très très mal connues. Pour donner un seul exemple, la plus grande réserve indienne du Brésil, qui s'appelle le parc du Xingu, est plus grand que le Portugal. Et quand on a dû mettre des clôtures pour le protéger tout autour, en dehors des rivières où on se contente de mettre des panneaux, il a fallu ouvrir 2000 km de pistes pour délimiter sa frontière.
C'est en effet un pays gigantesque. Et c'est vrai que de ce côté-ci de l'Atlantique, on a un peu du mal à saisir cette géographie. En tout cas, c'est assez énorme.
Oui, c'est une des choses qui rend difficile de raisonner tant qu'on n'est pas allé voir. Parce que même en lisant, et bon, je passe mon temps à écrire des textes et des articles et des bouquins pour essayer d'expliquer ça. Mais tant qu'on n'a pas vu de ses propres yeux et pris le bus et roulé des heures et des heures et des heures, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est bien sûr un pays, mais c'est aussi un continent. C'est largement à l'échelle d'un continent.
C'était le géographe Hervé Théry, professeur à l'Université de Sao Paulo. Pour réentendre ce magazine Économie et Développement, rendez-vous sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute. On se quitte avec le chanteur criollo, originaire donc de Sao Paulo. Et à la semaine prochaine.
Eu sei o que você quer. De longe a gente ganha vacilão. Você vem só de migué. Respeite o ar, gelou, é sem pressão. Fazer por fazer nunca será a nossa. A tripa do macaco.